soft power. Et
absolument.
On continue un petit peu dans la même veine. En tout cas, vous recevez ce soir le patron du Monde. Nous, on avait Élise Vincent. Il faut dire que le Monde a fait un traitement assez remarquable des événements ces dernières semaines.
Comment vous l'avez décidé, Jérôme Fenouglieu, vous êtes directeur du Monde, ce traitement de l'actualité par rapport à Bruxelles?
Oh bah, de toute manière, maintenant, malheureusement, on peut dire qu'on est un peu rodé, hein, avec ce qui s'est passé en 2015, entre janvier, entre novembre. Donc on a des réflexes qui se mettent en place immédiatement. Le réflexe de la couverture en temps réel, évidemment, sur le numérique, en faisant bien attention à ne pas colporter de fausses nouvelles, de rumeurs, etc.
Ce que la presse belge a eu parfois un peu tendance à faire.
Ce que la presse belge et internationale a parfois un peu tendance à faire, effectivement, en s'emballant un petit peu.
Mais vous l'avez traité comme si c'était quasiment un événement français.
Ah oui, 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 oui. Pour moi, c'est un prolongement d'événements français. Oui, oui. Il y a très
avec
peu
ce
de
magnifique dessin de Plantu, dessin d'ailleurs prémonitoire, hein, 13 novembre, 22 mars, qui associe la solidarité entre la France et la Belgique, mais aussi en réalité, on l'apprendra quelques jours après, quelques heures après, le lien même dans les terroristes même.
Oui, absolument. Dessin qui a été fait à chaud immédiatement, qui a parcouru immédiatement les réseaux sociaux. Je pense que ce sera notre document le plus partagé de l'histoire sur Facebook.
Manuel Valls l'a retweeté. Il a eu plus de 5000 likes et retweets sur ce.
Ouais. Donc c'est ça notre
couverture. Dessin de Plantu.
Voilà, un mélange d'émotion et puis évidemment de fiabilité, de vérification à tout moment.
Élise Vincent, un commentaire.
Ce qui s'ouvre, effectivement, je pense qu'on a essayé d'appliquer les méthodes de travail d'enquête française à une actualité belge. Et effectivement, les médias belges n'ont pas exactement le même rapport aux sources. Enfin, j'ai pu m'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver avec ces méthodes françaises en terrain belge. J'ai dû parfois un peu batailler. Mais voilà, quand on a une charte assez stricte à la maison et le patron qui est là ce soir, on s'y astreint et on arrive à faire des bonnes choses.
Une
voilà.
Toute petite question, est-ce que le Monde sur ce type d'affaires part en solo, en solitaire, ou est-ce que vous avez choisi, vous aussi, comme on a pu le faire cette semaine à Radio France, comme d'autres médias l'ont fait, de vous associer à d'autres journaux, d'autres titres quotidiens, notamment de la presse européenne, pour faire avancer l'enquête, pour partager vos sources et vos informations?
Non, en général, on se fonde sur notre savoir-faire à nous. C'est compliqué. Sur les aspects enquête, je pense qu'il vaut mieux rester autonome, vérifier soi-même avec ses propres pratiques. Ensuite, on peut, après, sur l'émotion, sur beaucoup d'autres choses, faire des associations. On réfléchit là à rendre hommage aux victimes de Bruxelles, comme on l'avait fait pour les victimes à Paris avec notre mémorial, peut-être avec un quotidien belge, mais ça c'est autre chose, c'est dans un deuxième temps.
De tout ça, nous reparlons ce soir dans Soft Power. Merci à Olivia Gesbert pour Dimanche Après. On vous retrouve dimanche prochain. On est en direct pour ce long week-end de Pâques. Il est 19h02 sur France Culture.
Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why I'm hot, hot.
Voilà, France Culture, 19h03, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries créatives numériques en direct en ce dimanche de Pâques, un peu nonchalant, comme ça tout calme. On est ensemble jusqu'à 20h depuis le premier studio de France Culture au 8e étage de la Maison de la Radio. Jérôme Fenouglieu est directeur du journal Le Monde et il est donc mon invité unique ce soir live jusqu'à 20h. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Avec vous, nous allons parler des nouvelles formules du Monde, de la toute nouvelle offre week-end, du journalisme selon Le Monde et selon Jérôme Fenouglieu, ainsi que du Monde sur les réseaux sociaux, des adblocks, de M, le magazine du Monde, ou encore de l'indépendance du journal de référence français. À 19h20, dans l'alphabet numérique, ce soir, nous évoquerons la classe inversée, ou les classes inversées, un concept original pour penser l'école et l'université du futur. Le cours magistral est une vidéo sur Internet, et seule la discussion, le débat, les échanges ont lieu en classe. Ce concept fait fureur aux États-Unis, notamment à l'université de Stanford, qu'il a adopté. On en parle avec Marcel Lebrun, professeur à l'université catholique de Louvain, et auteur de Classe inversée, enseigner et apprendre à l'endroit. Marjorie Paillon, de France 24 nous rejoindra pour ce segment ce soir. On écoutera également au cours de cette émission un extrait du concert des Rolling Stones à Cuba, à La Havane. C'était vendredi soir. Un Jeff Buckley magnifique et inédit ainsi que Tobias Gesso Jr. Tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h. À suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de 10h ainsi que sur Instagram, sur Medium, sur Facebook en podcast et sur France Culture en direct. L'actualité, comme chaque semaine, pour commencer cette émission avec vous, Jérôme Fenoglio, en direct. Vous êtes le directeur du journal Le Monde. Peut-être trois points d'actualité avant d'évoquer votre parcours et d'en venir plus précisément au Monde. On a commencé à le dire à l'instant avec Olivia Gesbert dans la transition entre nos deux émissions. Bruxelles, l'information en direct à partir d'un événement exceptionnel. On a vu par exemple qu'un journal, il s'agit de l'Obs, a diffusé une information sur la localisation de Salah Abdeslam qui a été jugé irresponsable par la police belge. Comment vous réagissez sur ce type de problème, de polémique ?
Moi, c'est chaque fois des choix très difficiles à faire. Hein. C'est sûr que il faut pouvoir informer sur l'enquête, parce que je pense que ça fait partie du devoir des journaux, de pouvoir informer tous nos citoyens de ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est vrai qu'il y a un principe de responsabilité qui fait qu'on parle aux enquêteurs et que, par moment, effectivement, on se tient à une forme de confidentialité pendant quelques heures ou pendant plusieurs jours sur des éléments qu'on ne donne pas pour ne pas menacer la poursuite de l'enquête. Il faut être responsable là-dessus. Dans ce cas précis, je pense qu'il y a eu une prise de décision qui, en même temps, à mon avis, ne menaçait pas tant que ça, quand même, l'arrestation d'Abdeslam.
Elle a quand même précipité son arrestation, du coup, sans doute. C'est ce que dit la police belge.
Sans doute, oui.
Pour ce qui concerne la déontologie dans ce genre de moments, les attentats ont lieu un peu après 8h, à 9h11 pour le second dans la gare du métro. La une du Monde est à ce moment-là bouclée. Comment est-ce que vous allez vous adapter, vous confier, enfin le web est essentiel évidemment, comment est-ce que vous vous réorganisez à ce moment-là précis ?
Alors la une du Monde est en cours de bouclage, hein. Elle boucle à 10h30, donc on a pu la modifier.
Mais sans avoir une couverture...
Sans avoir une couverture exhaustive, on a quand même fait 2 pages ce matin-là, et puis on a fait une qui est quand même largement consacrée à cet événement, avec une grande photo. On a eu des décisions un petit peu difficiles à prendre par rapport à nos photos, puisqu'on a publié seulement à l'intérieur la photo très marquante, mais aussi très controversée de cette femme donc qu'on voit en état de sidération, sous le choc en quelque sorte.
Et puis le dessin de Plantou.
Et puis évidemment le dessin de Plantou, ouais, qui a dessiné très vite, qui nous a proposé très vite.
Qui l'a refait, qui a eu le temps de le...
Et qui lui a vécu sa vie immédiatement, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux et qui a créé...
Donc là on est à 9h11, vous êtes capable de modifier un petit peu cette une ?
On est capable de faire 2 pages, on est capable de modifier largement la une en réalité pour sortir avec un bouclage légèrement décalé. On n'a pas réussi à boucler à 10h30 comme d'habitude, on a bouclé légèrement après 11h en prévenant l'imprimerie, ça passe.
C'est-à-dire que Le Monde du coup se retrouve un peu plus tard dans les kiosques ou...
On a une imprimerie moderne qui sait s'adapter à ce genre de choses et qui en fait a rattrapé très bien les choses. On a été en vente à peu près au même moment.
À certaines époques, il y avait des 2e, 3e éditions. C'est plus possible aujourd'hui ?
Non, ça c'est fini. Ça coûtait trop cher. C'était pas rentable de faire 3 éditions.
Par rapport à l'édition du lendemain qui va être dans un certain nombre de villes de province, vous pouvez faire des modifications ?
Non, on ne fait pas de modifications. On reste sur cette une unique. C'est pour ça que ça valait le coup de se décaler d'une demi-heure pour quand même donner la juste proportion à l'événement qui est en train d'advenir.
Parce que c'est un journal qui arrivera en l'occurrence le mercredi matin dans beaucoup de villes de France.
Voilà, c'est ça. Donc il faut quand même qu'on soit encore chaud et qu'on n'ait pas l'air décalé par rapport au quotidien du matin. Là, en l'occurrence, c'était le cas.
Du point de vue du dispositif journalistique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous réunissez les équipes et vous réorganisez la couverture ? Vous envoyez tout de suite des correspondants alors qu'il n'y a pas de Thalys ?
Alors, je pourrais vous répondre qu'on arrête tout et qu'on s'organise d'abord, mais ce serait mettre en avant les valeurs d'organisation qui sont les nôtres.
Vous faites un peu tout à la fois.
Et celle de Luc Brunner, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. La machine est complètement prête pour ce genre d'événement à réagir et tout se fait de manière très naturelle. Le numérique se transforme immédiatement en une cellule de couverture dédiée 24 heures sur 24 à cet événement. Et sur le print, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Le service des reporters sait envoyer immédiatement des gens sur le terrain. Tout le monde se mobilise de manière naturelle. C'est là que c'est très agréable de diriger un journal comme Le Monde, c'est que c'est une énorme machinerie vouée à couvrir la grosse actualité qui a parfois tendance un peu à s'ennuyer quand l'information est routinière. Mais dans ce genre de gros événements, c'est fluide, ça se passe bien, tout le monde sait ce qu'il a à faire, ça se met en place.
Florence Aubenas part tout de suite à Bruxelles.
Florence part tout de suite à Bruxelles.
Comment elle y va, puisqu'il n'y a plus de Thalys ?
Je pense qu'elle est allée en voiture. Mm-hmm. Oui, elle est allée en voiture, du coup, elle est partie immédiatement en voiture.
Et là, vous avez un dispositif sur place que vous allez mettre en place à Bruxelles ?
Oh ben là, à Bruxelles, de toute manière, on a déjà 2 correspondants hein, qui nous ont couverts immédiatement. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu faire ces 2 pages tout de suite. Dans l'île, à ce moment-là, on a de notre correspondante Jean-Pierre Strobantz, on a la correspondante auprès de l'Union européenne, Cécile Ducourtieu, et hop, ça se met en place et ils peuvent écrire immédiatement des papiers aussi.
Vous l'évoquez en début d'émission, portrait des victimes du 13 novembre, c'est un choix fort qui a été fait par Le Monde pour le portrait de la plupart des victimes, en tout cas ceux dont les familles ont accepté d'avoir ce type de portrait. Couverture saluée d'ailleurs, le New York Times l'avait fait aussi après le 11 septembre, quelque chose est envisager, imaginer ce coup-ci, comment vous allez fonctionner. Vous l'avez dit un peu.
Oui, on y pense. On va voir en lien avec un quotidien belge. On réfléchit à faire ça de nouveau, effectivement, un mémorial pour les victimes de ces attentats de Bruxelles, qui montreront cette fois-ci l'aspect extrêmement cosmopolite de la ville de Bruxelles. Il y a des nationalités, il y a énormément de nationalités différentes. Ce serait bien de pouvoir le signifier en revenant sur les parcours de ces victimes.
I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government and to protest peacefully. Not everybody agrees with me on this. Not everybody agrees with the American people on this, but I believe those human rights are universal.
À l'instant, Barack Obama s'est tombé également mardi. D'ailleurs, il a commencé son intervention, dont on écoutait un extrait, à Cuba, à La Havane, mardi, par un hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Barack Obama qui parle de la liberté d'expression, liberté d'association. Il n'évoque pas directement la liberté de la presse, mais tout ça est présent dans son discours. Comment vous réagissez par rapport à une visite inédite de cette ampleur?
Alors ça, l'avantage, c'est qu'on n'est pas pris par surprise comme pour des attentats. On sait se préparer à l'avance, on le voit venir dans le calendrier, puisque évidemment, tout ce processus était visible, connu, et qu'il était prévu qu'il y ait cette très grande échéance. Donc là-dessus, évidemment, on a le temps de préparer le déplacement d'un envoyé spécial, en l'occurrence notre correspondant à Washington, Gilles Paris, qui a accompagné la visite de Barack Obama. On a fait des reportages avant, qu'on avait emmagasinés, et puis évidemment, développé toutes sortes d'analyses, de background, de mise en perspective historique aussi sur le rôle du pape, par exemple, dans cette réconciliation, cette espèce de...
Le cardinal Ortega aussi,
voilà, aussi
qui joue
oui,
un rôle central
fait,
ouais. À La Havane.
Absolument, cette espèce de diplomatie souterraine qui a permis petit à petit ce rapprochement majeur. Là, c'est typiquement le genre d'événement prévisible où là, on est prêt à l'avance.
Ce discours d'Obama, en même temps, est audacieux. Il va rencontrer un certain nombre de dissidents. Il va devant Raúl Castro et devant l'intégralité, je dirais, non seulement des dirigeants cubains, mais aussi du peuple cubain, puisque c'est radio et télévisé à Cuba, semble-t-il, sous-titré, traduit. Barack Obama parle clairement des droits de l'homme à plusieurs reprises, à même de multiples reprises, ce que François Hollande n'avait pas fait lors de sa visite à l'automne dernier. C'est un acte courageux pour vous?
Oui, on aurait pu penser qu'il viendrait simplement pour tirer les gains de cette avancée, de cette époque qui se tourne, et puis venir capitaliser là-dessus. Non, effectivement, il est venu aussi avec une exigence, il l'a dit, il est venu aussi porteur d'un message et de valeurs, et je pense effectivement c'est tout à son honneur.
Avec de l'humour aussi, hein, quand il dit deux candidats des présidentielles sont cubains, et puis il y a même un socialiste dans le Vermont qui est candidat, on ne l'aurait pas cru en 1959.
Oui, je pense que l'humour a permis justement de désarmer,
de faire passer,
c'est la force de ce qu'il était en train de
puis
faire passer.
Il dit aussi, je suis un président noir, et il parle de la question noire, il dit que lorsqu'il y a la baie des cochons, c'est l'année où il est né, donc tout ça est en fait très ancien, ouais. Il veut tourner cette page-là.
Oui, il l'a fait très habilement, du coup en reliant son parcours au parcours américain et du coup en le faisant résonner avec l'histoire des relations tumultueuses avec Cuba. C'était plutôt effectivement très bien pensé comme séquence.
Un dernier mot sur l'actualité, Florence Hartmann, qui est une ancienne journaliste du Monde, est accusée par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie d'avoir rendu public un certain nombre de décisions, de documents dans un livre. Elle a du coup été arrêtée ce jeudi à La Haye. Une réaction de votre part?
Moi je trouve ça absolument scandaleux. Le sort qui lui est réservé. Elle est incarcérée à l'heure qu'il est. Nous en ferons demain, je pense, un billet que je signerai pour protester contre ces conditions incroyables. Détenir comme ça quelqu'un qui a donné l'alerte. Peut-être effectivement qu'elle a été amenée à publier illégalement un certain nombre de documents, mais enfin, je veux dire, de là à la traiter comme une criminelle de guerre, c'est
oui,
juste
au moment
insensé.
Même, Karzik, certes, est condamné, mais lui-même voilà. A plusieurs milliers de,
c'est juste incroyable.
De crimes.
Voilà.
Sur...
Traiter une lanceuse d'alerte en la mettant dans la même prison que les criminels de guerre, le même jour, me semble totalement disproportionné et on le redira demain très
clairement. Vous venez de dire que vous prendrez donc la plume demain. Quel est le statut de la signature du directeur du Monde. Quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il signe? Quand est-ce qu'il ne le fait pas? Quand est-ce que l'éditorial qui a été relégué en page intérieure n'est plus sous votre nom? Comment est-ce que vous faites ce choix-là? C'est un choix personnel, j'imagine.
L'éditorial a été placé en dernière page, ce qui n'est pas une relégation. Oui, mais ce qui n'est pas une relégation, c'est aussi la page la plus lue, puisque c'est la page par laquelle nombre de lecteurs qui lisent le journal à l'envers commencent. Donc c'est une page très, très, très visible. Le directeur
vous commencez par lire les journaux à l'envers.
Ah oui, beaucoup de gens. Oui, moi ça m'arrive.
On le fait en Israël, on le fait dans les pays arabes pour des raisons évidentes.
Il y a beaucoup de gens qui remontent à l'envers en commençant par la dernière et puis la culture, etc. Alors, le directeur a un privilège. Il signe les éditoriaux qu'il écrit. Les autres éditoriaux, on considère que ce sont les éditoriaux du Monde et donc ils sont anonymes, ils sont faits par plusieurs personnes, des éditorialistes ou des rubricards. Le directeur solennise sa prise de parole à des moments très
qu'il choisit lui-même.
Enfin, en gros, il s'impose. On est à peu près tous d'accord des moments où il faut que le directeur
prenne la... Soit si c'est lié au journal lui-même et à ses évolutions, soit s'il y a une actualité absolument majeure, politique, internationale.
Voilà. Et ces derniers mois, j'ai fait des éditoriaux autour, évidemment, des attentats à plusieurs reprises, autour des élections, notamment pour dénoncer le danger de la montée du Front National. J'en ai fait un avant et j'en ai fait un après... les élections en décembre. J'en ai fait récemment autour de l'agression d'un enseignant juif à Marseille. Enfin voilà, il y a donc toute une série de moments où le directeur marque quelque chose de un fait saillant et intervient en signant un éditorial.
Jérôme Fenoglio est directeur du Monde, il est mon invité en direct jusqu'à 20h sur France Culture dans Soft Power. Après avoir évoqué un certain nombre de points d'actualité, on va revenir sur le Monde en détail, sur un certain nombre d'évolutions que vous êtes en train d'apporter à ce journal. Mais peut-être juste avant, revenir un petit peu sur vous. On vous connaît peu, vous êtes apparu au moment de votre désignation, même s'il y avait un certain moment que vous étiez au Monde. Peut-être vous pourriez relier votre propre parcours et nous expliquer au fond comment on devient directeur du Monde.
Alors, on devient directeur du Monde sans forcément toujours l'avoir
désiré
toute sa vie.
On ne naît pas directeur du Monde, on le
devient.
J'avais
un but dans la vie, c'était de travailler au Monde. À partir du moment où je me suis dit que j'avais envie d'être journaliste, c'est vrai que je rêvais de devenir journaliste au Monde parce que j'adore la presse écrite et parce que j'aime profondément le positionnement qu'a le Monde par rapport au journalisme. C'est d'abord une ouverture aux questions internationales et puis une qualité d'écriture et puis une défense de ce qu'est l'écrit et puis une exigence. Donc, je trouvais que c'était le journal où je rêvais, j'aspirais à écrire.
Sur votre parcours, deux, trois points qui expliquent ce parcours, dont vous êtes à la fois fier.
Mon rêve que j'ai atteint avant d'être directeur, c'était de devenir grand reporter. Grand reporter, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialisé forcément dans un domaine. Moi, je fais partie du tout petit peuple des généralistes.
C'est presque une élite, les grands reporters.
Non, je pense qu'il faut les deux. Je pense que c'est très important qu'il y ait des journalistes spécialisés. Ils sont la grande majorité des journalistes du Monde et ils vont chercher chacun dans leur rubrique des informations, des analyses qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et ça, c'est très important qu'il soit majoritaire. La notoriété du Monde se construit sur cette expertise. Et puis, il y a quelques journalistes un peu plus généralistes qui interviennent sur des grands événements, qui amènent un regard un peu différent, une qualité de plume parfois. Et moi, c'est vrai que très présomptueusement, c'est ça que je rêvais de faire. J'aime changer de sujet et c'est ce que j'ai fait en l'occurrence.
Quel diplôme? Quelle école?
L'école de journalisme de Lille. Je fais partie des gens qui sont passés par une école parce que je n'avais absolument aucun contact dans ce métier. Je viens de la lointaine province du Var, je viens de Toulon à l'origine et donc du coup, je ne connaissais personne à Paris. Le mieux était de faire une école après des études de lettres.
Quel genre de directeur du Monde voulez-vous être par rapport à, évidemment, Hubert Beuve-Méry, on pourrait citer André Fontaine, Jacques Le Sourne, Éric Israelevich, d'autres plus récemment. Comment est-ce que vous définiriez votre identité de directeur du Monde dans une période, évidemment, numérique par rapport à vos prédécesseurs?
Un directeur qui cherche à adapter le Monde sans qu'il renonce ni à ses racines, ni à son histoire, ni à ses valeurs, mais qui soit très très fortement dans le changement. Dans ma vie, c'est ce que j'ai essayé de développer à travers ce que je viens de vous dire sur les aspects grand reporter, adaptation. Je sais plutôt m'adapter à des situations variées et diverses. Et là, j'ai vraiment envie que mon journal, sans renoncer à ce qu'il est, à ce journalisme de qualité, puisse s'adapter à cette énorme révolution que nous sommes en train de vivre et qui est la révolution numérique, la révolution des contenus et des usages, et donc faire en sorte qu'on profite de cette révolution. Alors que beaucoup de personnes disent que la presse est en crise, moi je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir avoir énormément de lecteurs, plus que jamais, de reprendre contact avec d'autres générations.
Une opportunité, non pas une fragilité obligatoirement.
Oui, voilà, oui, une chance, absolument, une chance. J'aimerais être le directeur qui arrive à persuader tout le monde en interne, parce que c'est compliqué, hein, parce que parfois on se dit, oh là là, c'est beaucoup de changements, ça change beaucoup nos habitudes. J'aimerais pouvoir être celui qui parvient à faire changer ce journal profondément, à le faire évoluer vers ses nouveaux lecteurs et ses nouveaux usages, sans renoncer à rien de ce que nous sommes, depuis, en l'occurrence, moi, de ce que je porte depuis 25 ans, puisque ça fait maintenant 25 ans que je suis au Monde.
Sur l'ADN du Monde, alors journalisme de qualité, fiabilité, exhaustivité, etc., on pourrait citer un certain nombre de mots. D'ailleurs, sont-ils toujours pertinents, l'exhaustivité? Est-ce qu'il faut la chercher, l'ère numérique, quand beaucoup d'informations sont ailleurs? Mais cet ADN, vous le définiriez comment?
Alors, juste sur l'exhaustivité, c'est sûr que c'est plus quelque chose que nous recherchons sur le journal imprimé. L'exhaustivité, aujourd'hui, elle est du côté du numérique. Et là, oui, nous efforçons de suivre le plus gros des actualités et d'être le reflet fidèle de ce qui se passe dans le monde entier. Moi, je vous définirais volontiers le monde, l'ADN du monde, comme un socle d'un certain nombre de valeurs. Je pense que nous restons aujourd'hui encore un journal progressiste, c'est-à-dire tourné vers ce qui change, tourné vers ce qui évolue, qui dit que la société n'est pas forcément en bon état, qu'elle a besoin d'être guidée vers un certain nombre d'améliorations, sociales et économiques notamment. C'est la première chose. Nous sommes un journal profondément tourné vers l'international. Nous pensons que se replier derrière nos frontières n'est pas la bonne solution. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui une interaction entre les États et qu'il est extrêmement important de la raconter, de la décrire. Et nous pensons que ce serait un recul de renoncer à cette dimension-là. Et dans ces interactions, il y a celle qui opère avec nos voisins, les États proches, c'est l'Europe. Et nous sommes profondément encore militants de la construction européenne.
J'ai noté le « encore ».
Oui, parce que on voit bien comment ça lâche autour. On voit bien aujourd'hui comment la cause européenne, la construction européenne est devenue une espèce de punching ball sur lequel tout le monde tape à bras raccourcis. C'est devenu même la mode de dire que l'Europe s'est effondrée, ne sert plus à rien, la critiquer en permanence. Nous pensons que c'est une très bonne chose, qu'elle a amené la paix, qu'elle a amené énormément de choses en Europe, et nous pensons qu'il faut continuer à la défendre tout en reconnaissant les erreurs qui ont été commises.
Sur l'accélération de l'information qu'on voit, même dans le monde, notamment sur le site du Monde et sur les réseaux sociaux. Quelle est votre politique par rapport au papier, précisément? Est-ce que vous êtes un adepte de ce qu'on aime appeler en Italie, notamment le slow journalisme, au prix peut-être parfois d'être en retard sur les événements?
Alors, nous avons depuis que nous avons développé le numérique, nous cherchons aussi à développer ce côté temps réel. Faire un peu de la radio écrite, en quelque sorte, ça remet de l'adrénaline, ça nous force à être rapide, et ça c'est très important d'être présent aussi sur ces événements en temps réel. Mais nous le faisons avec nos règles à nous, c'est-à-dire que, en permanence, nous cherchons à valider nos informations, et si nous sommes en retard de quelques minutes sur une alerte, un urgent, nous ne sommes pas dans la compétition. Nous préférons être fiables, et l'année 2015 a montré à quel point c'était important, plutôt que de chercher toujours à être les premiers. Donc nous cherchons à éviter, à minimiser le risque d'erreur au maximum. À côté de ça, il est évident que, y compris sur le numérique, nous pouvons aussi développer des grands formats qui prennent du temps, qui peuvent prendre même des mois pour être préparés, des grands formats qui mêlent à la fois l'image, le son, l'écrit, évidemment, et que ces grands formats, ils se retrouvent aussi tout naturellement sur le journal papier. Et là, oui, effectivement, il faut toujours, plus que jamais, des grandes pages enquêtes, des grands reporters, des rubricards qui prennent le temps aussi d'aller au fond d'un sujet et qui le développent avec toutes les nuances qui sont nécessaires.
Jean Fenoglio est directeur du Monde. Il est mon invité ce soir jusqu'à 20h en direct. Vous pouvez lui poser vos questions sur les réseaux sociaux, hashtag softpower. Dans un instant, on parle de la classe inversée. Puis avec vous, Jean Fenoglio, on reviendra dans la deuxième partie de cette émission sur les mutations, l'évolution de l'offre week-end, la politique des suppléments, la matinale, M le magazine, l'époque que vous venez de lancer. Et puis, on parlera des adblocks, de la bataille des idées, tout petit peu de la francophonie, de la couverture internationale. Et si on a le temps, de tout ça, puis bien sûr des réseaux sociaux et de la question du monde à l'ère numérique, mais précisément sur les supports numériques. Tout ça juste après Without You de Tobias Gesso Jr.
Why can't you just love me Should I move on? Or should I wait? And how'd you get so high above me? I reach higher every day. But nothing changes. No, it all just stays the same.
Un extrait de Without You de Tobias Gesso Jr. Le jeune chanteur canadien est intéressant car il apparaît peu à peu comme une figure clé de la scène indie rock mi-canadienne, mi-américaine. Et il en est même l'un des passeurs, comme Mark Ronson, primé avec Bruno Mars dans la catégorie album de l'année au récent Grammy Awards. Tobias Gesso Jr. fait partie de ce mouvement un peu vintage qui revient au rock indépendant des années 70. Les mélancolies, les balades au piano sont datées, mais le son et le style sont contemporains. Du coup, Tobias Gesso Jr., jeune Canadien exilé qui traîne dans l'illégalité aux États-Unis pendant quelques années, sans visa, menacé par la police, qui gagne sa vie comme déménageur de maison abandonnée dont la mère est atteinte d'un cancer, lui-même victime d'un accident de voiture louche. Bref, tout ça est compliqué. Il se met à composer au piano et c'est tard pour apprendre le piano, mais il va le faire et s'y consacrer avec la rigueur du désespoir. Et ça paye. Son premier album, Goon, est un succès majeur dans la catégorie indie rock, avec notamment ce Without You que nous écoutions à l'instant. Et depuis, Adele lui a proposé d'écrire pour elle, après le très globalisé Hello, c'est When We Were Young, le second succès planétaire d'Adele, signé Tobias Gesso Jr.
Soft Power. L'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions, avec Marjorie Paillon de France 24. Bonsoir Marjorie.
Bonsoir Frédéric.
Et ce soir, nous évoquons dans l'alphabet numérique la classe inversée. Classe inversée avec Marcel Lebrun. Il est professeur à l'Université catholique de Louvain, donc en Belgique. Il a écrit cet ouvrage, Classe inversée, enseigner et apprendre à l'endroit, un ouvrage publié aux éditions Canopée en 2016. Marcel Lebrun, peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'une classe inversée ?
En fait, le terme est né il y a quelques années, en 2008, par des enseignants du secondaire, j'insiste, qui en avaient un peu assez de voir les élèves complètement démotivés, alors que la matière, c'était leur passion, finalement. Et ils ont essayé quelque chose, ils l'ont appelé les flipped classrooms, l'équivalent en anglais, en se disant que finalement, les cours qu'ils donnaient en classe, qui étaient très transmissifs, pour des étudiants, des élèves de nouvelle génération, c'était quelque chose d'assez peu motivant. Et ils se sont dit, mais ils n'arrêtent pas de regarder des vidéos sur YouTube, si on mettait notre cours, donc j'insiste, la transmission des connaissances sur vidéo sur YouTube, ils pourraient les regarder à la maison et nous, ça nous permettrait de faire un travail plus intéressant en classe, des échanges, des expériences, des petits problèmes, etc., etc. Donc les classes inversées, les leçons à la maison et les devoirs à l'école.
Donc le cours principal, le cours magistral, se fait sur vidéo, on le regarde chez soi et on vient en parler en classe.
C'est un peu ça. Ah oui.
Mais d'où vient le terme exactement? Et puis si on apprend à l'endroit, comme vous le dites dans votre ouvrage, avec la classe inversée, ça veut dire que jusqu'à présent, la pédagogie va à l'envers?
Je pense que la pédagogie va à l'envers, effectivement. L'école est à l'envers et depuis pas mal de temps. Écoutez, quand vous êtes dans la vie, dans la société, dans votre profession, on ne vous donne pas la théorie d'abord et vous résolvez des problèmes ensuite. On commence par des problèmes et finalement, la théorie, vous allez la chercher et vous essayez de trouver une réponse à votre problème. Quand je dis la théorie, vous allez la chercher, bah, à l'heure actuelle, on va encore la chercher dans des livres, mais de moins en moins. On va la chercher sur Internet, sur des vidéos, sur des blogs, etc. Et donc, la classe inversée, c'est peut-être remettre l'école à l'endroit, une école où on ne vient plus pour écouter le savoir comme au Moyen-Âge, il y a 6 siècles, où il fallait aller dans un endroit donné pour écouter.
Parce que tout simplement, les étudiants, les élèves ne l'écoutent plus. C'est ça le constat que font certains profs ?
Ben, les étudiants, ils n'ont plus tellement envie d'écouter, et je dis bien seulement, un professeur qui est là pour raconter des savoirs, dès lors que le savoir maintenant, il est accessible, est externalisé, vous avez des blogs, des encyclopédies, etc.
Alors il y a des universités, notamment aux États-Unis, je pense à Stanford University, où les classes sont organisées désormais de plus en plus selon cette flip classroom, donc la classe inversée, encore une fois, la vidéo à domicile qu'on regarde quand on veut et puis en classe on vient débattre, on vient discuter. Ce serait ça l'avenir, un des avenirs possibles de l'université et peut-être de l'école ?
Je pense réellement que vous évoquez la culture américaine. Je pense que contrairement à la culture latine où on a besoin d'un professeur pour faire le prêche, si vous voulez, le cours ex cathedra, hein, on dit comme ça, je pense qu'aux États-Unis, avec une culture qui est plus anglo-saxonne, peut-être d'inspiration protestante, on donne très tôt aux élèves le goût d'aller chercher par eux-mêmes, de lire les savoirs, de les combiner, de venir en discuter avec le professeur dans l'amphi ou en classe.
Alors c'est sûr que c'est un choc de culture pédagogique, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça change très concrètement, à la fois pour les apprenants et pour les enseignants ?
Alors, ça change beaucoup de choses et c'est le sens du mot inversé. On pourrait dire ça inverse quoi ? Ça inverse le rapport au savoir, tout d'abord. Est-ce que le savoir est quelque chose qui est découvert ? On dit Kepler découvre les lois de la gravitation, un peu comme s'il soulevait un voile et tout à coup les lois sont là. On est passé beaucoup plus à un stade de l'invention finalement, c'est-à-dire de savoirs qui sont créés socialement, qui ont une origine sociale dans les problèmes des gens. Donc, un rapport au savoir qui change très fort. Et finalement, c'est ça l'école à l'endroit. C'est pas au professeur à apprendre aux élèves, ce sont les élèves qui apprennent. Donc finalement, ils construisent leur savoir. Un changement de rôle aussi. En effet, les élèves deviennent tour à tour des enseignants pour leurs condisciples. Le professeur descend de l'estrade et devient finalement the guide on the site, un accompagnateur de création de savoir. Et donc je pense que ça remet finalement l'école à l'endroit, une école à l'unisson avec la société.
C'est-à-dire que comme on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'économie collaborative, il y a une co-création du savoir à pouvoir mener aujourd'hui. C'est ça la clé du succès du savoir dans les années à venir ?
Oui, je pense réellement, vous dites, donc vous parlez déjà de la société, de l'économie, de l'entreprise. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, nous y sommes déjà quelque part. Un exemple peut-être banal, anecdotique, mais les lieux communs sont importants. Il y a 10 années d'ici, 20 ans, 30 ans, on allait à l'agence de voyage pour réserver un hôtel, pour préparer son voyage. À l'heure actuelle, nous allons sur les sites web, nous choisissons nos hôtels, nous choisissons nos vols, et nous sommes même capables de lire les avis des consommateurs là-dessus. Donc, on se rend compte qu'on est dans une horizontalisation, on dit parfois une ubérisation de la connaissance.
En même temps, le tourisme, c'est pas exactement pareil que l'éducation. Il y a des critiques nombreuses qui sont adressées à tous ces débats et à tous ces projets, ces propositions de classe inversée, de flipped classroom.
Alors oui, les critiques, je le dis souvent, j'adore les grognons, ils nous aident à avancer dans notre réflexion. Alors, la critique principale, ben, elle revient à l'essence même. Probablement, un incompris par rapport à la classe inversée. Il ne s'agit pas seulement, j'insiste, de dire aux élèves, vous allez regarder des vidéos à la maison, on en discute en classe. Si c'est ça, beaucoup de résultats de recherche montrent que ça ne fonctionne pas bien. Les élèves ne regardent pas les vidéos, pas plus que nous regardions les livres de cours lorsque nous étions aux études avant d'aller aux cours. Par contre, la classe inversée, c'est aussi dire aux élèves, allez chercher le savoir en dehors de la classe, hors les murs finalement, essayez de le rassembler, d'en faire par exemple une présentation pour vos condisciples, et là, on rentre de plein pied, non pas dans des pédagogies transmissive déguisée, parce que les vidéos en dehors de l'école, bah, c'est des pédagogies transmissives déguisées, mais vers des pédagogies réellement actives, situation problème, travail en groupe, etc.
Vous parlez tout à l'heure d'éducation ubérisée, c'est presque un gros mot à l'heure actuelle. Justement, si on essaie d'envisager la classe inversée, le flipped classroom, dans la perspective aussi des MOOC, de ces nouveaux outils de l'éducation du savoir qui sont en train de se développer, est-ce qu'on peut dire que ce sont des outils complémentaires pour une nouvelle économie, encore une fois, de l'apprentissage?
Les MOOC, étant les Massive Online Course Classes, c'est-à-dire des outils numériques, notamment vidéo, qui permettent de faire des cours tout simplement sur Internet.
Oui, je pense que le saut est très rapidement fait de dire que les MOOC, donc ces cours en ligne massifs, etc., sont complémentaires des classes inversées. Bien sûr, l'image est simple, les savoirs sont dehors et on en discute en classe. Je ne le pense pas réellement. Les MOOC sont en fait conçus comme des cours qui visent à l'apprentissage autonome, à distance. On le dit, il y a des étudiants du Pakistan, d'Afrique du Sud, d'Amérique, qui suivent un même MOOC. À ce moment-là, le présentiel, il ne peut plus exister. Le MOOC est créé uniquement pour un enseignement à distance. Très difficile alors de refaire du présentiel, c'est-à-dire de l'enseignement hybride.
Alors que la classe inversée, justement, elle impose ce présentiel.
Ben, elle l'impose effectivement parce que c'est le moment de co-construction des savoirs. On quitte le régime de la transmission. Très tôt, j'ai dit que les MOOC, pour moi, ce n'était pas une innovation pédagogique. Il y a eu l'écriture, le livre, maintenant les MOOC. Mais oui, évidemment, quand on est très motivé, ben, on peut apprendre à partir d'un livre ou d'un MOOC. Je pense que on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Et donc, on a besoin de la présence.
Marcel Lebrun est professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il a publié « Classe inversée, enseigner et apprendre à l'endroit ». C'est publié aux éditions Canopée en 2016. Et puis pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. France Culture, 19h36, vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h sur France Culture. Le chanteur américain Jeff Buckley est mort il y a presque 20 ans. Il est mort noyé accidentellement à l'âge de 30 ans lors d'une baignade nocturne dans le Mississippi à Memphis. Il est l'auteur d'un seul album publié de son vivant, Grace, qui a fait de lui une légende, notamment à travers son titre sans doute le plus connu, sa reprise du Alléluia de Leonard Cohen. On pouvait être lassé parfois de ses publications posthumes, concerts et fonds de tiroirs d'enregistrement de ce chanteur dont l'intérêt était parfois inégal. Ce nouvel album qui vient de sortir est bien plus intéressant avec ses 10 chansons regroupées sous le titre You and I. Enregistré en studio en 1993, il compte des reprises inédites mais aussi des compositions originales comme cet enregistrement Dreams of You and I qui donne son titre à l'album. On y entend Jeff Buckley raconter la naissance d'une chanson sur l'histoire d'un couple, une chanson qui parle d'amour et du sida, on est encore au début des années 90, une chanson apparue au cours d'un rêve. Et on a tout à coup l'impression très émouvante de partager un moment d'intimité avec le chanteur, le jeune chanteur disparu. Écoutez.
I dreamed that the song was about this guy, or you know, the person in the song is singing to his lover, supposedly. That he's completely theirs. The lover has forbidden anybody to have contact with him. The lover has taken away his freedom, taken away his days and nights, taken away his, you know, his dreams. Sent away his friends, forbidden him to, you know, get close to his parents, all that stuff. And what it was an AIDS rally. And the song was about AIDS. Or about something like that. So every time the refrain came around, people would say, and they point to the sign that says, you know, like, it said AIDS with a circle with a slash through it. And they go, all for point to the sign. So that was the dream. I woke up with it.
Okay. Magnifique. Jeff Buckley, Dreams of You and I dans Soft Power ce soir. À retrouver sur notre playlist de Deezer sous le nom Soft Power. Vous êtes sur France Culture en direct. Mon invité jusqu'à 20h est Jérôme Fenoglio, le directeur du journal Le Monde.
Soft Power, le magazine des internets de France Culture. Frédéric Martel.
Alors Jérôme Fenoglio, on est ensemble jusqu'à 20h donc. On a évoqué un certain nombre de sujets transversaux sur l'identité, l'ADN du monde. Venons-en peut-être à la nouvelle formule. J'ose à peine employer le singulier puisque à l'époque, la nouvelle formule arrivait tous les 10 ans. C'était un moment important. Désormais, il y a des nouvelles formules presque tous les ans, parfois tous les mois.
C'est la nouvelle formule permanente.
La nouvelle formule permanente. Alors, l'offre week-end, parlons-en. Elle a notamment long week-end de Pâques. Ça fait partie des innovations que vous avez proposées et depuis le 11 mars, avec à la fois un supplément idée qui remplace le supplément culture et idée. D'ailleurs, un internaute nous dit sur Twitter, Vincent Bach, pourquoi avoir arrêté le supplément culturel du vendredi soir ? Culture idée devient idée. Et puis époque. Commençons peut-être par ces deux suppléments.
Alors, pourquoi avoir... c'était pas vraiment un supplément culturel, hein, culture et idée. Il était déjà fortement tourné vers les idées. On a simplement un petit peu amplifié cette couverture des idées parce qu'on s'est rendu compte depuis pas mal d'années que les lecteurs voulaient beaucoup plus avoir...
Il faut dire qu'il n'y en a pas du tout dans le monde. Il y a 4 pages débat parfois par jour. Il y a un supplément littéraire, ils en veulent encore plus. Et ça veut dire que l'analyse doit être l'identité du monde ?
Oui, je pense que ça fait partie des grandes missions du monde, oui. Faire débattre les gens, être l'endroit où les gens se parlent. Vous avez vu à quel point, par ailleurs, c'est difficile de faire parler les gens actuellement, et on doit être un des endroits où les gens peuvent échanger, où il peut y avoir des opinions diverses qui peuvent s'échanger, et surtout où on dit d'où les gens parlent. Ça, c'est très important. Il faut faire de l'enquête aussi sur les idées.
Donc l'enquête intellectuelle, c'est ça le sujet de l'idée ?
Exactement, absolument. De l'enquête intellectuelle, c'est-à-dire quels sont les parcours, quels sont les positionnements, quelles sont les écoles. C'est vraiment très important de créer aussi ce sentiment que les idées n'apparaissent pas comme ça toutes seules. Elles viennent de courants, de formations, d'écoles, et c'est ça que nous cherchons à mettre en valeur.
En face, notre supplément, l'époque. Alors là, on sent votre signature peut-être encore plus, parce que là, c'est vraiment nouveau par rapport à supplément culture idée qui était devenu juste idée. Un jeu sur la maquette, un jeu sur les polices, le journal des petits changements et des grandes mutations de la vie quotidienne, la modernité heureuse, dit-on, pour ce supplément.
Eh ben oui, il faut aussi assumer que dans cette époque tragique, dans cette époque anxiogène, nous pouvons aussi, et je pense que c'est nécessaire, je pense même que c'est assez vital, nous pouvons aussi regarder un peu nos vies, voir la manière dont elles évoluent à une vitesse juste incroyable. Avant, on faisait des pages futures, on se disait dans 20 ans, ce sera comme ça. Mais là, en réalité, tous les ans, des choses changent, des usages changent, des métiers apparaissent, des pratiques apparaissent, d'autres disparaissent d'ailleurs. Il faut raconter ça, c'est pas simplement le journal des bonnes nouvelles.
Et d'une manière positive quand même, c'est-à-dire un peu l'anti-Finkielkraut, ce n'est pas l'identité malheureuse,
c'est
la modernité heureuse.
Oui, il y a une forme de responsabilité là-dedans à dire à un moment, mais nous ne sommes pas simplement en train de péricliter, en train de décliner, en train de nous enfoncer dans un marasme
absolu. Vous laissez les déclinologues décliner tout seuls et vous passez au positif.
Oui, je crois qu'il faut
positif.
Dire aussi qu'on évolue, on le voit bien dans nos vies. Il n'y a pas que du noir, il y a effectivement de l'inquiétude, il y a plein de choses qui ne marchent pas, et puis il y a par ailleurs... des choses qui changent, qui créent de l'activité, qui créent de la réflexion. Il faut aussi les décrire. Alors, on a du mal en France, au monde aussi, on avait du mal avec ça, avec cette sphère personnelle, etc. Les anglo-saxons le font très bien, et nous, on va s'efforcer aussi de le faire, d'y arriver.
Quand on regarde les trois innovations de ce supplément, il y a le questionnaire de Proust revisité, un peu ringard, mais bon, pourquoi pas.
Oui, revisité.
Ça existe d'ailleurs déjà dans le supplément du New York Times, qui fait quelque chose d'assez équivalent. Il y a une chronique voyage, qui existe aussi dans le New York Times, avec leur fameux 36 heures, très connu. Et puis, le 25 février, le New York Times avait fait une une sur le déjeuner au travail. Hein. Failure to lunch, the lamentable rise of desktop dining. Un mois plus tard, avec ce nouveau supplément à l'époque, 27 mars, enquête sur la lunchbox et la cantine. Comme quoi... Vous avez au même moment les mêmes idées que le New York Times. C'est ça qui est formidable,
c'est bien,
avec un petit mois de retard.
Avec un petit mois de retard, mais je vous garantis que ça, évidemment, quand on l'a, ça fait des mois qu'on réfléchit à l'époque, et je vous garantis que dans la première liste des sujets, il y avait déjà celui-là bien avant que nous le lisions.
C'est comme
New
quand Ségolène Royal avait dit que les conseillers d'Obama étaient venus copier sa campagne pour le numérique. Vous avez été copié par le New York Times.
Non,
plus sérieusement, quelle est la politique des suppléments finalement ? Logique politique de garder dans le corps du journal certains suppléments, comme le supplément de télévision qui est réintégré aux pages globales, alors même que d'autres suppléments s'en émancipent. Quel est le choix qui est fait ?
La logique, c'est qu'en fait, de regarder dorénavant, la semaine est séparée en deux. En gros, il y a les trois premiers jours de la semaine qui sont très tournés vers l'actualité chaude. Et puis, dans la deuxième partie de la semaine, il y a plus de temps de lecture de la part de nos lecteurs papier. Là, hein, on parle principalement du papier. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut placer nos suppléments qui prolongent, qui amplifient la réflexion, mais qui peuvent être aussi tournés vers le plaisir et le temps de lecture. Alors, évidemment, il y a le Monde des Livres qui apparaît dès le jeudi. Donc, nous avons rajouté un supplément sport qui existe, et puis au magazine dorénavant, ce supplément idée. Et puis nous créons Époque à côté. C'est-à-dire qu'il faut avoir en fin de semaine, chaque jour, une offre supplémentaire, saillante, qui donne quelque chose en plus à lire, puisque c'est le temps, c'est le moment où les lecteurs peuvent approfondir.
Sur cette politique des suppléments, on peut faire une comparaison. C'est d'ailleurs pas forcément à votre désavantage avec ce que fait le Figaro, journal d'en face, si on peut dire. Si on regarde le supplément sportif, dans le Figaro, c'est extrêmement lié au résultat des matchs. C'est extrêmement lié vraiment à l'actu du sport. Ce week-end, dans le supplément sportif du Monde, on a une une sur le footballeur total. Je la lis parce qu'elle est quand même intéressante. Le titre de une, Johan Cruyff avait inventé le football total comme Wagner avait conceptualisé l'art total. Donc on est peu sur l'intellectualisation du sport.
Oui, oui,
prenons un autre supplément qui est la médecine et les questions de santé. Mm-hmm. Dans le Figaro, vous avez, alors tous les gens qui s'intéressent à la santé ont des fiches, des enseignements, des réflexions très précises sur telle maladie, comment les éviter, comment se soigner, quel type de médicaments, etc. Dans le Monde, on a des enquêtes, des concepts sur la médecine, des analyses sur tel professeur, etc. C'est deux approches très très différentes, que ce soit sur le sport ou sur la médecine, entre le Figaro et le Monde. Dans un cas, on intellectualise un sujet, dans l'autre, on le rend question pratique. Est-ce qu'au fond, les lecteurs ne veulent pas aussi du pratique ?
Oui, c'est ce qu'on essaie de faire justement avec l'époque. Il y a aussi des jours où il faut être un peu plus près de leur vie. Mais en l'occurrence, pour ce qui est de la médecine, nous l'avons intégré aussi dans un supplément qui est le seul que nous avons au début de semaine, le mardi, qui est le Science et Médecine. Et là, pour le coup, oui, je pense que c'est extrêmement...
Tu parlais du sport aussi au début.
Voilà, et donc là maintenant, c'est seulement Science et Médecine. Et c'est vrai que sur la science notamment, reliée aux questions de la recherche médicale, il y a une immense curiosité. Il ne faut pas négliger le pratique, mais il ne faut pas négliger le fondamental non plus. Il ne faut pas négliger les grandes avancées de la recherche, ça fait rêver aussi, hein, en astronomie, en archéologie, et dans la recherche médicale, il y a plein d'avancées qui passionnent, vraiment, là on le voit aussi auprès de nos utilisateurs numériques, de nos lecteurs sur le site, c'est vraiment des sujets qui passionnent énormément de personnes.
Un mot sur deux succès du Monde, qui sont d'ailleurs pas obligatoirement récent, mais je pense à, bien sûr, M, le magazine du Monde, lancé en septembre 2011. Plus récemment, La Matinale, lancée en novembre 2015. Là, en l'occurrence, c'est vous qui l'avez fait. Ça dure sur 7 désormais. Comment vous analysez ces deux succès ?
Ben, le magazine a enfin réussi ce qu'on cherchait à faire depuis beaucoup d'années. Moi, j'ai été rédacteur en chef d'un des magazines précédents du Monde, qui s'appelait Le Monde 2, qui avait des bonnes enquêtes à l'intérieur, mais qui n'arrivait pas à avoir ce qui fait l'alchimie, qui fait réussir un magazine, une bonne entrée dans un magazine, une sortie avec un côté, justement, vie pratique, comme vous le disiez. Il y a beaucoup de vie pratique dans M, elle est là aussi. Et là, je trouve qu'une formule a été trouvée par Marine-Pierre Nanlong et son équipe, qui fait qu'on a un magazine équilibré.
Qui... Avec à la fois des grandes plumes du Monde,
voilà.
Et...
Voilà. Le lien avec le Monde est fait. Il y a des grandes plumes, il y a des grandes enquêtes. J'ai eu un immense plaisir, en tant que grand reporter, de publier un très très grand reportage qui revenait sur la catastrophe de Fukushima à l'époque, donc des sujets très sérieux.
Mais quelle plus-value ? Parce que quand on voit ces grandes plumes du Monde, pourquoi pas dans le journal ? Finalement, ça fait un très bon deux pages en l'intérieur, à part que ça vous permet d'acheter ce supplément et l'ensemble de l'offre week-end à 4,20 €. Quelle est la vraie plus-value pour les lecteurs ? Parce que les chroniques, on peut, sans être désagréable, on peut dire qu'elles sont... comment dire, assez moyenne. Il y a beaucoup de choses, mais on sait aussi, quand on a compris qu'il y a pour une part, c'est un attrape-publicité, le magazine. Si on enlevait ces grandes enquêtes, qu'on les remet dans le Monde, quel est le vrai intérêt pour le lecteur ?
Alors d'abord, il y a ces grandes enquêtes. Elles peuvent être beaucoup plus longues que ce qu'on peut mettre dans le quotidien, où la place est quand même contingentée.
Même sur deux grandes pages du quotidien ?
Oui, même sur deux grandes pages du quotidien, on ne met pas ce qu'on peut mettre dans le magazine. Et puis il y a une forme de variété, et puis il y a aussi une forme sur papier glacé d'attrait, de plus belles photos. Et puis je conteste votre jugement sur un certain nombre de chroniques, et puis même sur certains formats pratiques qui sont attrayants, sympathiques, et qui sont vraiment, pour le coup, assez éloignés du standard de qualité qui vont dans les publications qu'on peut qualifier d'attrape-pub, en l'occurrence.
Alors, sur la matinale, là, c'est un succès qu'on peut placer entre... Enfin, c'est vraiment vous qui l'avez fait depuis novembre dernier. De quoi s'agit-il pour ceux qui ne le connaissent pas, ce format.
La matinale a existé elle existe depuis juin dans une version 5 jours sur 7 et en novembre nous l'avons étendue sur 7 jours sur 7. Bah, la matinale, c'est l'idée de faire une autre publication. On a Le Monde Papier qui sort à midi, en début d'après-midi, on va dire, à Paris. Et puis dorénavant, en numérique, nous avons Le Matin, à 7h du matin, sur les mobiles, une publication avec une manière de circuler dans l'information très ludique, inspirée de Tinder, parce qu'on va aussi regarder les applications qui marchent, et qui permet dès le matin d'avoir un tour de l'actualité, les meilleurs papiers qui seront publiés dans le quotidien de l'après-midi, le point sur les informations de la nuit, puisque maintenant, l'information, comme on l'a dit, c'est 24 heures sur 24.
Ça veut dire que vous repositionnez aussi vos équipes, notamment à Los Angeles, pour couvrir l'actualité, y compris la nuit?
Oui, on est maintenant sur du 24 heures sur 24. On est énormément lu à l'étranger. On l'a vu en 2015. Quand quelque chose se passe à Paris de dramatique, tout le monde vient sur Le Monde. C'est Le Monde qui est connu à l'étranger. Donc, on a un lectorat énorme, quel que soit le continent. Et donc, du coup, on se doit à tous les fuseaux horaires d'être frais, d'être rafraîchi.
D'où ce bureau de Los Angeles,
renforcé. D'où l'ouverture d'un bureau qui va radicaliser l'expérience qu'on avait faite depuis 3 ans d'envoyer un certain nombre de rédacteurs numériques.
Parce qu'avec 9 heures d'écart, ça permet...
C'est plus agréable de travailler de jour en Californie que de nuit à Paris dans un bureau dans un bureau mal éclairé. Donc c'est un intérêt pour tout le monde, c'est un intérêt pour nos lecteurs. On ne ferme jamais en numérique, on couvre l'actualité et donc ça profite à la matinale. Nous sommes maintenant aussi un quotidien du matin, un quotidien numérique du matin sur les mobiles, mais bon, nous sommes présents.
Sauf
aussi.
Quand on est à Fort-Calquier, Martigues,
ah ben la double chance,
à Biarritz.
Martigues, on reçoit le journal papier.
Et puis on a un truc qui vous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière, qui arrive trois jours après.
Voilà, il y a le tout frais, et puis il y a le journal qui amène sa réflexion approfondie.
Vous avez évoqué Los Angeles sur la géopolitique du monde. Hein, vos priorités quant au redéploiement géographique à l'international, quelles sont-elles?
Ah ben là, on a fait un énorme effort depuis un an avec la création du Monde Afrique. Le Monde Afrique, c'est une chaîne numérique de couverture de l'actualité africaine. Et là, on pense qu'il y a un champ d'investigation, un champ d'information qui est gigantesque, pour lequel on commence à avoir vraiment pas mal de lecteurs, évidemment dans les pays plutôt francophones, et pour lequel aussi, ça nous permet d'adosser toute une série de manifestations en Afrique. On a créé des débats à Abidjan, on va en avoir bientôt à Dakar. Les débats du monde Afrique qui montrent à quel point ce continent est aujourd'hui animé par une vitalité qui fait qu'il est extrêmement important de le raconter en sortant là aussi de la déprime, en sortant là aussi des discours très négatifs qui l'ont handicapé pendant des années.
Dans l'actualité internationale et aussi d'ailleurs française, à venir, l'euro en France, juin 2016, les JO à Rio, la présidentielle américaine, dispositifs spéciaux du monde pour ces trois événements.
À chaque fois des dispositifs spéciaux, oui bien sûr, des dispositifs numériques, évidemment pour couvrir le temps réel, des lives, des blogs. Pour l'euro, évidemment, comme c'est en France, on fera un effort particulier. On essaiera de le traiter un peu comme vous avez décrit notre article sur Crève, c'est-à-dire en lui donnant aussi une résonance culturelle, une résonance sociale,
prendre de la hauteur.
Prendre de la hauteur, un peu d'humour aussi, un peu de distance, et on voit que, pour le coup, on a beaucoup de lecteurs en numérique qui se disent que le monde a quelque chose à dire sur le sport. Tant mieux, ils vont venir, on le voit à chaque événement. Évidemment, on fera ça aussi pour les Jeux Olympiques, et puis le grand rendez-vous de l'année, ce sera la présidentielle américaine, parce que là, pour le coup, il y a 8 ans, avec l'élection d'Obama, on avait battu notre record d'audience. On l'a depuis, évidemment, pulvérisé avec beaucoup d'autres événements, mais là, avec un décalage horaire qui fait que nous, on est très présents la nuit, qu'on a un journal papier qui est évidemment le premier à paraître avec le nom du président l'après-midi après les élections, et bien là évidemment on a une très forte couverture avec beaucoup de correspondants sur place et on en verra le nom.
Normalement c'est annoncé à 20h, donc même le Figaro et Libération peuvent le sortir le matin, le nom du nouveau président.
Ah non, là, américain, non, c'est plus
tard. Ah oui,
américain.
Pour la couverture française, parce que vous avez évoqué la grande présidentielle, mais il y a aussi la présidentielle française.
Bien sûr, alors ça c'est l'année suivante, 2017, et ça on commencera dès l'année 2016 à construire donc une couverture qui sera cette fois-ci beaucoup basée aussi sur la vidéo. Donc on mettra ça en place à partir de l'automne, hein, parce qu'il y aura les primaires à droite, au moins. Donc on commencera avec une couverture en numérique qui sera axée beaucoup sur la vidéo. Cette fois-ci, on va faire un effort là-dessus. Et puis aussi avec une mobilisation supérieure des décodeurs, c'est-à-dire du fact-checking, mais aussi du débat citoyen sur l'information, la qualité de l'information. Il faut vraiment que cette couverture de la présidentielle, elle tienne compte de ce qui s'est passé, du rejet qui est en train d'être une marque très forte aujourd'hui du sentiment de la population par rapport à la classe politique. Il faut qu'on lui amène des sujets de fond.
Ça pour la présidentielle donc française. Jérôme Fenoglio est directeur du Monde, mon invité jusqu'à 20h. Nous avons appris tout à l'heure la disparition d'Alain Decaux, à 90 ans, ancien ministre de la francophonie dans le gouvernement Rocard. C'était l'historien un peu vedette du petit écran pour être... c'était à la fois un bon pédagogue qui savait parler de l'histoire, le Stéphane Bern, des années Mitterrand. Je vous propose de l'écouter. C'était... la toute première édition de la Tribune de l'Histoire, diffusée le 18 octobre 1951 sur les ondes de la radiodiffusion française.
La Tribune de l'Histoire prend le départ sur les ondes de la radio. Curieux et excitant mélange que ce moyen moderne au contact du passé. Véritable aventure de l'esprit qui nous entraînera à travers quantité de mondes dans des élans que nous voudrions passionner.
Car pour nous, l'histoire, la grande et la petite, ne se peut concevoir que dans la passion. L'histoire craque d'attaches humaines, malgré les peintures figées, les manuels classiques et le commentaire du guide pendant la visite d'un musée. Notre ambition est d'intéresser tout en servant l'histoire. Nous ferons en sorte que cette tribune soit la tribune de tout le monde, la plus ouverte, la plus accueillante possible. Car nous sommes tous la conséquence de l'histoire, et sans que l'on s'en doute, chacun, en somme, est fonction d'un nombre illimité de péripéties historiques, bâties tantôt sur des hasards, tantôt sur la raison.
Voilà, Alain Decaux décédé cet après-midi à 90 ans, disparition annoncée en tout cas cet après-midi. Manuel Valls a tweeté tout à l'heure, il savait raconter notre histoire comme personne. Une réaction, Jérôme Fenoglio ?
En histoire, il y a des grands historiens, puis il y a aussi des bons vulgarisateurs. Il était de ceux-là, de ceux qui font passer l'histoire, de ceux qui savent la raconter, effectivement, pour que le grand public, tout le monde puisse s'en emparer. Et donc du coup, effectivement, je pense qu'Alain Decaux, pour tous ceux qui l'ont vu, entendu à la télé, à la radio, ça reste un souvenir fort de récits très précis.
Voilà, on a appris également la disparition de l'écrivain américain Jim Harrison samedi par une crise cardiaque. Ça a été annoncé tout à l'heure à l'âge de 78 ans. Cette émission touche à sa fin, mais peut-être deux, trois questions rapides pour terminer. On vous connaît partout en France actuellement parce que votre visage apparaît désormais partout lorsqu'on consulte lemonde.fr sur Internet à cause des adblocks. Vous pouvez peut-être expliquer le débat et ce que vous avez fait rapidement.
Mon visage apparaît dans un message d'information que nous adressons aux personnes qui se sont équipées d'un adblocker, c'est-à-dire d'un bloqueur de publicité. C'est juste un message d'information, hein, ça ne coupe pas l'accès à l'information.
Vous leur dites, on vit de la publicité.
On vit aussi de la publicité. Nous avons des recettes équilibrées entre la publicité, l'abonnement, la vente en kiosque, et nous avons aussi besoin de la publicité. Donc nous incitons les personnes qui sont équipées d'adblock de ne pas les activer, au moins quand ils viennent nous voir, parce que nous nous efforçons. On comprend bien pourquoi ils les mettent, la publicité paraître très invasive. Nous nous efforçons sur notre site d'avoir une publicité qui respecte la lecture et qui n'envahisse pas cet espace-là.
Le fait qu'aujourd'hui on accède au monde essentiellement par mobile, notamment sur smartphone, non pas uniquement, mais quand même de plus en plus, ça change la politique du journal ?
Ça le change et ça le changera de plus en plus. Donc on a créé la matinale qui est spécifiquement sur mobile. Et c'est vrai qu'il faut impérativement de plus en plus faire attention à la manière dont nous présentons nos informations, non plus sur les ordinateurs, mais sur les mobiles. Donc petit à petit, nous équipons nos écrans d'une visibilisation de la manière dont ça se présente sur les mobiles et nous réfléchissons à des formats plus adaptés à ces modes de lecture.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Jérôme Fenoglio d'avoir été mon invité ce soir. Et vous aurez sans doute reconnu les Rolling Stones pour se quitter. Le morceau Jumpin' Jack Flash dans la version interprétée. C'est l'exacte version interprétée ce vendredi soir à La Havane. Le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais ça a été joué devant 500 000 à 1 million de Cubains. Un concert gratuit et historique dans un pays où la musique est omniprésente, mais où hélas les grandes stars de la Nueva Trova, de la salsa ou du reggaeton ont tendance à s'exiler. à Miami après la visite historique d'Obama lundi et mardi. Le concert des Stones vendredi soir a clos une semaine inédite pour Cuba. Une révolution, n'exagérons rien, mais un tournant certainement. Dimanche prochain, nous parlerons des données du Big Data avec Alain Lévy, le patron de la société Weborama. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'Alphabet Numérique, sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, avec David Lavaux aux réseaux sociaux et Nicolas Delmas à la régie. Olivier Guérin était à la réalisation ce soir. Demain matin, dans la matinale de France Culture, Guillaume Erner recevra le philosophe Jean-Pierre Dupuis.